بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الشفاء الإسلام nous complétons ce soir inshallah le fameux hadith Ibn Abbas radiallahu anhuma qui avait bénéficié des conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des conseils visant à préparer son iman, préparer sa spiritualité et développer sa relation avec Allah Azza wa Jal. Pour rappel, Ibn Abbas radiallahu anhuma à cette époque était encore un enfant et le prophète alayhi salatu wa sallam va lui adresser un discours avec des termes très simples, avec des termes extrêmement simples. Ce discours sera accessible, compréhensible à un enfant, donc profitable à un enfant, mais en même temps profitable à un adulte et à n'importe quelle personne, n'importe quel membre de sa umma jusqu'au qiyam. Et ça, c'était un point important. Et ça, ça faisait partie des qualités de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle jawami al-kalim. C'était des paroles d'une profondeur. C'était des paroles très importantes, c'était des paroles essentielles, mais qu'il véhiculait par des propos très simples. Et ça, c'est vraiment la qualité des anbiya alayhi wa salatu wa salam. Et donc, parmi les conseils que notre prophète sallallahu alayhi wa salam avait donné à Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, c'était tout d'abord, respecte la religion d'Allah, mets-la en pratique et propage, apprends, et propage la religion d'Allah azza wa jal. Yahfavuk, qu'est-ce que cela t'apporte de pratiquer la religion en te basant sur ces quatre principes? Le premier principe, pratique, éloigne-toi de ce qui est interdit, instruis-toi, apprends le ilm. Et ça, c'est la chose la plus importante, mes chers frères en islam. Et c'est le grand manquement de notre umma à notre époque, c'est le manque de talab, le manque de motivation pour apprendre la religion. À partir du moment où le cœur de l'être humain, ou plutôt du mu'min, du musulman, est habité par le sentiment d'autosatisfaction, où on est persuadé qu'on est dans le droit chemin, et qu'on se base sur nos acquis, et qu'on n'éprouve aucune nécessité d'avancer de la religion, d'apprendre la religion, c'est là qu'en fait, sans qu'on s'en rende compte, on perd du terrain. On recule jour après jour. Et surtout, on perd du terrain auprès de Iblis, alayhi la'natullah, qui par son waswasa, ses insufflations, peu à peu, il finira par nous faire chuter. Alors que le musulman qui sait, qui a pris conscience qu'il est important de se ressourcer spirituellement, qu'il est important de faire des remises à niveau de son iman, de son ilm, de remettre en question son niveau de concentration, par exemple, dans la salah. Et donc, ça nous amène vers son niveau de connexion avec Allah Azza wa Jal, ce croyant qui en permanence se pose cette question, comment est-ce que je vais devenir un meilleur croyant? Comment est-ce que ce Ramadan qui s'approche, subhanallah, je vais le vivre de la meilleure des façons? Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal va être satisfait, va être content de moi? Donc, cela ramène vers ses natijas, vers les conclusions, vers les amals, vers les actions. Comment améliorer mes bonnes actions? Comment m'éloigner du haram? Donc ça, c'est l'aboutissement de subhanallah, de ce cheminement que le croyant doit faire vers Allah Azza wa Jal. Alors que celui qui est persuadé qu'il a tout acquis et qu'il n'a plus besoin de personne ni d'aucune connaissance religieuse, c'est quelqu'un qui va stagner et qui peu à peu va se retrouver en arrière, qui va se retrouver parmi les derniers et qui finira, Allah nous protège, peut-être être un jour piégé par un shaitan, par un péché qu'il n'attendait pas ou par un manquement qu'il ne pensait pas venir de lui. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il donne ce conseil à Ibn Abbas, basé sur l'apprentissage de la connaissance religieuse, l'accomplissement des bonnes actions, l'éloignement des péchés, et tout ça c'est lié. On va dire, talabul ilm, acquérir le ilm, la connaissance religieuse, si cela n'aboutit pas sur l'accomplissement des bonnes actions, cet apprentissage de la relation, de la connaissance religieuse ne sera d'aucune utilité aux croyants. Jazakallah khair. Et de la même façon, quelqu'un qui apprend la religion, qui le met en pratique, mais qui ne s'éloigne pas du haram, qui ne fait aucun effort pour s'éloigner du haram, on va dire que ce talab al-ilm ne lui sera pas réellement profitable, de même que l'accomplissement des bonnes actions ne lui apportera pas l'effet souhaité, parce qu'en même temps, il ne fait pas l'effort de rester éloigné du haram. Et le quatrième pilier de Ihfadillah, protège din d'Allah, le quatrième pilier, c'est la propagation de la religion aux autres. Présenter le message à l'ensemble de la Ummah en fonction de nos compétences et de nos connaissances. Donc lorsque le prophète sallam il s'adresse à Ibn Abbas, il enseigne qu'il faut faire ces quatre choses, le prophète alayhi salatu wassalam lui donne la garantie que « Oh mon enfant, si tu le fais, yahfavuka, Allah te protège. » C'est-à-dire qu'Allah te protégera contre toute mauvaise chose. Tout ce que nous pouvons imaginer comme chose négative, ben, nous aurons, incha'Allah, la protection d'Allah Azza wa Jal contre ces mauvaises choses. Et si une mauvaise chose, ça c'est moi qui rajoute, si malgré notre assiduité dans la pratique de la religion, comme on l'a expliqué avec ces quatre points, malgré ça, il nous arrive un quelconque malheur, qu'on va qualifier plutôt d'ibtila, d'épreuve, ben, qu'on sache que cela est une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal. Vous savez, quelqu'un qui est dans le droit chemin, quelqu'un qui est dans le droit chemin, qui fait le maximum de bonnes œuvres et qui fait le maximum d'efforts pour rester éloigné des péchés, qui fait en sorte de ne pas causer du tort à son prochain, à un moment donné, la personne, il se sent bien intérieurement. À un moment donné, quand on est dans le droit chemin, on se sent bien, il y a un apaisement spirituel. Mais quand on est dans cette situation, ben, même s'il nous arrive un problème, le médecin nous annonce une mauvaise nouvelle, que voilà, vos analyses ne sont pas bonnes, vous avez un cancer, vous avez tel problème, qu'Allah nous protège, ou qu'il nous arrive une quelconque difficulté, ben, je vous donne la garantie que ce croyant qui est dans le droit chemin et qui va vivre ces difficultés, il ne va pas les vivre comme une catastrophe, mais il va tout de suite intégrer que c'est là une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'Allah Rabbul Izzah annonce, « Wa lanabluwannakum bishay », nous allons vous éprouver. Allah explique comment il va éduquer l'homme, comment il va éduquer le iman, l'âme de l'homme. Ce n'est pas uniquement les prières, le ramadan, la lecture du Coran, le dhikrullah, parce que ça, il y a plein de gens qui peuvent le faire. Mais il y a plein de gens qui le font, mais qui en même temps, lorsqu'ils sont confrontés à une éducation qui vient d'Allah Azza wa Jal, à une leçon qu'on appelle imtihan, un ibtila, une épreuve, les personnes perdent pied tout de suite. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Donc dans le Coran, Allah Azza wa Jal explique clairement comment est-ce qu'il va éduquer l'homme, comment est-ce qu'il va éprouver l'homme, comment est-ce qu'il va tester. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Qu'Allah va nous éprouver par, dans le désordre du dien, par le décès des proches, par la perte des biens, par l'angoisse, la peur, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, par la faim. La faim, ce n'est pas que là j'ai faim, je n'ai pas encore mangé. Non, la famine, il n'y a plus à manger. C'est difficile ça. Que vous n'avez plus à manger, vous êtes un bonhomme, mashallah, vous avez, alhamdulillah, 20 kilos de graisse. De toute façon, c'est notre stock à nous, c'est bon. Mais quand vous voyez votre femme, vos enfants qui n'ont rien à manger, Allahu Akbar, nas'alullah as-salamata wa al-afiyah. Qu'Allah nous protège de voir nos enfants qui n'ont rien à manger. Le simple fait de le dire, ça attriste nos cœurs. Pour ceux qui ont des enfants, c'est quelque chose qui nous blesse profondément. Ça, on peut considérer comme étant la pire des catastrophes. Ce n'est pas la pire des catastrophes. C'est là une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, comment changer ma vision de ces épreuves? Comment réaliser que ce n'est pas là une catastrophe, mais c'est là une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal? Cela pourra se faire qu'à partir du moment où on a un socle spirituel qui nous permet d'encaisser. Il y a des gens qui arrivent à encaisser des coups. Il y a des gens qui sont spécialistes en différents arts martiaux. Vous donnez un coup de poing, tac, il fait comme ça. Vous donnez un coup de poignard, il fait comme ça. Il arrive à encaisser n'importe quel coup physique. Mais les coups qui touchent votre foi, votre iman, les épreuves, ça pouvait être aussi fort, aussi costaud. Il y a des montagnes qui chutent par une toute petite pierre qui les touche. Il y a des gens qui paraissent intouchables, mais lorsqu'ils ont une petite épreuve, un problème de santé, le grand costaud, il devient comme un enfant, il a besoin d'aide, il a besoin de soutien, il a besoin d'encouragement. Il dit, ben, Je croyais que lui, c'était, mashallah, il a 50 ans, il a 60 ans, il a la barbe à blanchir, ça c'est quelqu'un qui a des années d'épreuves, d'expérience. Oui, mais lorsque le socle spirituel n'est pas formé, personne ne tient ferme sur ses jambes, sur ses pieds. Et donc, le prophète, alayhi salat wa salam, on s'éloigne un peu de l'introduction, lorsque le prophète, alayhi salam, adresse ses paroles à Ibn Abbas, c'est pour que cet enfant devienne quelqu'un de fort. C'est pour qu'il devienne un croyant avec les qualités spirituelles. Je veux dire que oui, mais dans ce discours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de la salat. Alors que dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Mouru awladakum bis salat, wa hum abna'u sab'a ». Encouragez, donnez l'ordre à vos enfants de faire la prière à partir de 7 ans. Mais dites, où est la prière de ce hadith? La prière, c'est les actes d'adoration qu'on accomplit bil jawarih, avec les membres. C'est la soumission du corps à Allah azza wa jal, pilier de l'islam, chose indispensable. Mais là, le prophète, alayhi salat wa salam, il vise autre chose. Il vise la soumission du cœur. Chers frères, le corps peut être soumis à Allah, azza wa jal, si le cœur n'est pas soumis à Allah, rabbul izzah, ce croyant n'avance pas. C'est pour ça qu'il y a islam et il y a iman. Islam, c'est les cinq piliers. Les cinq piliers. Iman, c'est les six rukn, c'est les six branches. Développer cette relation avec Allah par le biais de ses branches. Les sahaba, ridwanullahi alayhi majma'in, on le répète, on ne le répétera jamais assez. Qu'est-ce qu'ils ont appris en premier? Tarbiya imaniya, l'éducation de l'âme. 13 années à Makkatul Mukarrama. Pendant ces 13 années, il y avait combien de piliers de l'islam? À la fin, parmi les dernières années, Makki, après le décès de l'oncle, Prophète sallam, et de son épouse Khadija, lors du voyage nocturne, on pourrait dire entre guillemets seulement, mais c'est là qu'Allah a décidé, c'est là que le premier pilier a été révélé, As-Salah. Mais pendant tout ce temps, les musulmans faisaient quoi? Ils disaient que, avant, l'islam était belle, était cool. Pas namaz, pas talavi, il ne fait pas karem, il ne paye pas zakat, il ne pas hajj, trop canon. Ah bon? Mais là, ils ont appris c'est quoi? Iman billah, bil malaika, bil rusul, bil yawm il akhir, bil qada'i wal qadr, destin. Toutes les branches de la foi, c'est là que les croyants l'ont appris. Et lorsque, mashallah, le socle spirituel est prêt, vous amenez la salat, subhanallah, vous amenez la salat, c'est comme si vous plantez une graine dans une terre qui est extrêmement fertile. Quelle que soit la graine que vous allez planter, ça va donner des arbres fruitiers d'une vitesse qu'on n'imagine même pas. Le sahaba, lorsqu'ils ont eu ce cadeau, la salat est qualifiée comme étant un cadeau qu'Allah donne à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons la salat, là, il fait namaz, là. Aïe, 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 tracas, pourquoi on fait namaz, t'es. Là, il faut faire wuzu. Là, il faut laver la figure, là, il faut laver le pied, là, il faut laver ça. Là, il faut faire un rakat, après deux, après trois, après quatre. Fatigué, sans travail. Le salat est devenu un fardeau pour nous. Allah musta'an. Allah musta'an. Hein, une personne, je parle pour moi-même parfois, vous sortez d'une réunion, vous terminez à minuit, vous rentrez chez vous, vous dites, là, je suis épuisé, fais la prière. Le corps est lourd, comme dit, le corps, il ne donne plus. Mais, parce que peut-être que imaniya, sur le plan iman spirituel, on n'a pas cette isti'adad, on n'a pas cette préparation. Et tout le monde doit se remettre en question. Les sahaba, ils avaient un socle spirituel tellement fort, on pourrait dire un terreau tellement fertile, que lorsque le prophète sallam a reçu ce cadeau de la part d'Allah, pour eux c'était Eid. Pour eux la salat, c'était Eid. Parce qu'ils faisaient la salat, mais pas comme nous le faisons actuellement. Et surtout, ce n'était pas une salat limitée, il n'y a pas un nombre de rak'at. Et ce n'était pas un pilier qui les rapproche d'Allah. Dans cette salat, le prophète sallam qui les enseignait, les sahaba ont trouvé l'émancipation spirituelle. Ils sont devenus les meilleurs des hommes par le biais de ces salats. Les mêmes salats que nous accomplissons, mais que l'imam dit Allahu Akbar, nous sommes déjà loin. Nous sommes déjà en vacances, on planifie, je ne sais pas, la fin d'année, on prépare déjà la liste des courses, qu'est-ce que je vais prendre Carrefour, la salon de la maison, il vend un appareil qui rappe des cocos, l'autre il vend des trucs, j'ai vu, j'ai entendu, la deuxième rakat, mon budget, comment est-ce que je vais avoir de l'argent, Allah musta'an, haqiqa, c'est pas mubalara, c'est pas exagération, c'est une réalité. Réalité, quand le imam lit, et pire encore, quand il ne lit pas, on voyage, le iman est faible. Le iman est faible, ce qui fait qu'on n'arrive pas à profiter spirituellement de la salat. Et donc, le prophète, alayhi salat wa salam, je reviens, qui prépare Ibn Abbas, il veut qu'Ibn Abbas, sallallahu anhuma, est-ce qu'il a connu la période Makki? Non. Ibn Abbas est un enfant. lorsque le prophète lui enseigne ses paroles, on est à Al-Madina. Ibn Abbas est un enfant, c'est-à-dire qu'Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, n'a pas connu la période Makki, n'a pas connu cette éducation imaniya. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que c'est normal que notre pratique de la religion est faible. On n'a pas connu l'époque Makki comme les Sahaba. Non, on ne va pas résumer les choses comme ça. Je n'ai pas connu l'époque des Sahaba, donc c'est normal que je fais des péchés. Là, wallah. Ibn Abbas, qui n'a pas connu la meilleure des périodes, c'est Al-Ahdul Makki, Ibn Abbas, il reçoit ce tarbiya Al-An, maintenant. Pour rappel, Ibn Abbas avait en 13, 14, maximum 15 ans lors du pèlerinage d'adieu. C'est-à-dire que lors du Hijra, certainement, il devait être âgé de 2 ans, 3 ans, Wallahu A'lam. Il n'avait pas 5 ans, en tout cas, ça c'est sûr. D'accord ? Donc le Prophète va lui enseigner ses paroles pour qu'un jour, il deviendra quelqu'un de bien. Et il est cette conviction que quand je pratique la religion, c'est là que j'obtiens l'aide d'Allah Azza wa Jal, la protection d'Allah Azza wa Jal. La deuxième promesse faite par le Prophète à travers ce hadith, tu trouveras Allah toujours avec toi. Dans n'importe quelle situation de ta vie, Allah sera là. Allah te guidera tes choix dini ou dunyawi, que ce soit spirituel. Et comme, quel plus beau cadeau que d'être guidé par Allah dans sa religion? N'est-ce pas ce que nous demandons à chaque ihdinas sirat al-mustaqim, oh Allah, guide-nous, oh Allah, guide-nous. Et nous le répétons jusqu'à la mort. Que ce soit une prière, faraz, sunnah, nafil, salat al-tarawih, qu'obain raka'at on fait, ihdinas sirat al-mustaqim. Parce que celui qui a été guidé vers le droit chemin, c'est l'homme le plus heureux. C'est l'homme qui a réussi à être guidé par Allah. Et donc, ihfadillaha tajidhu tujahak, ça rejoint le sens d'ihdinas sirat al-mustaqim. Tu trouveras Allah devant toi, c'est-à-dire qu'Allah te guidera dans tes choix religieux, t'orientera, te protégera des péchés, te protégera du nifaq, de l'hypocrisie, te protégera de riya, de l'ostentation, protégera du sumaa, que j'aime qu'on parle de moi partout, du shuhra. Allah te protégera contre le fisq, le fait de faire des péchés, et de ne pas donner de l'import. Vous m'avez parlé de ça, Jum'a, salat Jum'a, que la pire des choses, c'est rafla, l'insouciance. Je fais des péchés matin et soir, mais je suis arrivé à un tel degré d'éloignement d'Allah que je ne pense même pas que c'est un péché, je ne demande même plus pardon à Allah Azza wa Jal. Là, le cas est grave. Beaucoup plus grave que celui qui a fait un péché et qui s'en remet à Allah immédiatement, parce que pour lui, là, il y a un verset qui dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَعِشَا, ceux qui accomplissent des péchés أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, ou qui font du tort à eux-mêmes, ذَكَرُوا اللَّهِ, ils pensent à Allah. Ensuite, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, et Allah, subhanallah, est satisfait et content de cette personne. Et à la fin du verset, Allah Rabbul Izzah parle du Jannah, du paradis, comme récompense pour eux. Alors qu'ils n'ont pas fait un péché, ils n'ont pas fait une grande action, ils ont demandé pardon pour leur péché, Allah est satisfait d'eux. Et ça rejoint un hadith, lorsque le serviteur s'éloigne d'Allah, s'éloigne, fait des péchés, lorsqu'il revient vers Allah, Allah est plus content que l'homme qui a perdu sa monture dans le désert, qu'il retrouve, c'est-à-dire il retrouve la vie. Allah est content de nous. Quand l'homme pense à son Seigneur, il revient vers lui. Pour ça aussi, on condamne les gens qui condamnent les gens. Les gens qui disent, les ashab al-takfir, hein, qui ont trouvé leur source parmi les khawarij, cette secte qui est apparue après le décès de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, et qu'on retrouve de nos jours à parler de takfir, les gens qui disent que, ouais, t'as fait tel péché, tu vas dans l'enfer, mon frère. Ah, t'as fait tel péché, c'est fini, il n'y a plus de pardon pour toi. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas le shirk. Bas. Wa yaghfiru. En dehors du shirk, Allah est capable de tout pardonner. Autre version, qui pardonne les péchés à part Allah. Et d'autres versets encore qui prouvent qu'Allah est capable de tout pardonner. Donc, celui qui pense à revenir vers Allah, il est aimé par Allah Azza wa Jal. Alors que celui qui fait les péchés, qui est de le rafla, de l'insouciance, cette personne, Allah l'éloigne de lui au fur et à mesure, parce qu'il y a des points noirs qui vont s'installer sur son cœur pour chaque péché, jusqu'à ce qu'il devienne un fasiq, qu'Allah nous protège. Le fasiq écoute le Coran, la beauté du Coran ne pénètre pas son cœur. Le fasiq écoute les paroles, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça rentre, yadkhulu bil yumna wa yakhruju bil yusra. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Il n'y a aucun effet sur son cœur. Parce que le cœur est devenu noir, le cœur est devenu insensible, le cœur est devenu dur. Le fasiq, il lève, se lève, il fait qiyam al-layl, il fait tahajjud, il fait salat al-tarawih. Il peut peut-être même demander dua devant la Kaaba, le cœur reste dur. Parce que les péchés sont ancrés dans ce cœur. Il est perdu ? pas perdu. Il aura un travail de stirfar à faire. Il aura un travail de taubatun nasuha à faire. Casser cette carapace qui s'est construite autour du cœur pour retrouver le pardon d'Allah. Et quelle que soit notre ancienneté, qu'Allah nous protège de le péché, si quelqu'un revient vers Allah avec ikhlas, sincèrement, Allah Azza wa Jal accepte le pardon du abd. Tant qu'il n'est pas dans le gharghara, dans l'agonie, on a expliqué ça dans les signes de Qiyama dernièrement, tant qu'il n'est pas dans les derniers instants de sa vie, ou que le soleil ne s'est pas levé à l'ouest, c'est-à-dire juste avant le Qiyam. Donc, en pratiquant le dîn d'Allah de cette façon, basée sur le ilm, sincérité, l'accomplissement du bon usage, l'éloignement du haram et la da'wa, Inch'Allah, on aura la protection d'Allah. Inch'Allah, Allah Rabbul Izzah guidera nos choix spirituels. On sera protégé contre toutes ces mauvaises choses qu'on a dit. Et le dernier qu'on a cité, c'est Al-Fisq. C'est le fait de rester dans les péchés. Et Allah nous guidera également de nos choix dunyawi, dans les choses communes en rapport avec notre vie de ce dunya. Et pour revenir à la salah, lorsqu'on disait que les sahaba, lorsqu'ils ont eu la salah, mashallah, ils se sont épanouis, il faut se rappeler que dans le hadith Qudsi, notre prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte qu'Allah azza wa jal a dit que le serviteur ne se rapprochera pas d'Allah rabbul izzah d'une meilleure façon, mimaftaratuhu alay, que par le biais des actions que j'ai rendues obligatoires sur lui. C'est-à-dire, c'est arcane. Aujourd'hui, nous cherchons beaucoup. Nous cherchons de grands discours. Il faut qu'il parle. Là, c'est des phrases. On voit quand ça commence, mais on ne voit pas quand ça finit. Là, on a l'impression que ça, c'était un discours. Et là, on va devenir des impieux. Ibn al-Halal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des paroles de trois mots. Sa phrase, c'était une demi-ligne. Ce qu'il dit à Ibn Abbas, un enfant comprend, un adulte comprend, quelqu'un, un fundi comprend, un cheikh comprend, un alim comprend, celui qui s'est converti il y a 5 minutes, il comprend. Ça, c'est le mu'jiza dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles simples, mais prononcées, Allah, 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 avec tellement d'ikhlas, et ces paroles, ils sortent d'un cœur tellement pur, un cœur qui est soumis à Allah, un cœur qui ne désobéit jamais à Allah, un cœur qui obéit à Allah minute après minute, que quand ces paroles sortent de la bouche du prophète et pénètrent les oreilles d'Ibn Abbas, ça va directement de son cœur et il le met en pratique. D'où l'importance également de la préparation spirituelle du da'iyah. Donc ça c'est un autre sujet. Donc le prophète dit également Ibn Abbas, radiallahu anhuma, idha sa'alta, ensuite, le prophète continue l'éducation spirituelle d'Ibn Abbas, idha sa'alta, ô mon enfant. À chaque fois qu'on prononce une phrase, on pourrait dire entre parenthèses, ô mon enfant. Parce que le prophète, ce n'est pas Hajjat al-Wada'a. Il ne parle pas Boubacar al-Siddiq, Omar Uthman Ali. Il ne parle pas des piliers, des anciens de l'islam. Il parle un enfant. Ô mon enfant, idha sa'alta, fas'alillah. Lorsque tu as besoin de quelque chose, demande à Allah. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est que le cœur de l'enfant, on met la présence d'Allah, Azza wa Jal, c'est une façon de s'exprimer, on met l'amour d'Allah, la présence d'Allah dans le cœur de cet enfant depuis son plus jeune âge. Il a besoin de quoi que ce soit, il ne va pas demander aux gens que son espoir est orienté uniquement vers Allah. Wa idha sta'anta, on entend répéter ce qui a déjà été dit. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Tu as peur. Tu as peur de quelqu'un. Tu as peur de quelque chose. De nos jours, on a peur de tout. On a peur des gens, on a peur des sorciers, on a peur de la maladie, on a peur des virus, on a peur des bactéries, on a peur de la jalousie, on a peur du mauvais regard, on a peur. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Quand tu as besoin d'aide, ista'in billah, demande à Allah Azza wa Jal seul et à personne d'autre. Quand il dit wa idha sta'anta fasta'in billah, ay, ista'in billah wahda, wala tasta'in bi ahadin ghayri. Adresse-toi à Allah uniquement. Et à personne d'autre. Quand on dit Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, le Iyaka, on va dire que le Iyaka, c'est comme un coup de poing, ça. Enfin, c'est un coup de poing. Moi je le vois ça comme ça. Iyaka. On va dire que c'est le doigt shahada levé. Je suis un peu trop violent ce soir. Iyaka, c'est uniquement toi que nous adorons. Iyaka na'budu. Wallah, Iyaka, ay. La ahad siwak, personne d'autre qu'on adore. Ya Allah, ça c'est le tawhid pur qu'on retrouve dans le Fatiha. Wa iyyaka nasta'in, c'est uniquement auprès de toi qu'on trouve de l'aide, ya Allah, et auprès de personne. Ça c'est imaniya, formation spirituelle dans notre Fatiha, et qu'on retrouve dans les conseils que le prophète alayhi salatu wassalam donne à Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Je pense que c'était arrêté à là, la fois d'avant, et lundi dernier, bon, c'est qu'on considère qu'on s'en n'avait pas fait. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il écoute encore les paroles du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des paroles de conclusion Non, là, ce n'est pas des paroles conclures, ça c'est après. Et une parole, on va dire, une situation réelle. Après que le prophète lui ait expliqué ses trois thèses, ses trois enseignements, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est comme si qu'il lui met dans une situation réelle. Il a dit, maintenant, je te donne un cas de figure, ô mon enfant. Wa'alam, annal umma, sache que si tout le monde, tout ce que tu vois, toutes les personnes que tu vois, lawijtama'at, lorsqu'ils se réunissaient, tout le monde, les personnes ordinaires, les rois, les princes, les riches, les personnes influentes, ala an yanfa'uka bi shay, ici ils essaient tous de t'aider, ils essaient de te venir en aide. Sache que lam yanfa'uka illa bi shay in qad katabahu Allah laka. Sache, ô mon enfant, que même s'ils faisaient tout pour te venir en aide, pour t'apporter quelque chose, ben ils ne t'apporteront rien de plus que ce que ton Seigneur t'a déjà prédestiné. Et quand on dit que ce que ton Seigneur t'a déjà prédestiné, c'est le ni'ma qu'Allah t'a déjà accordé. Donc, ash-shukru lillah, les remerciements, alhamdu lillah. Quand on dit alhamdulillahi rabbil alamin, louange, remerciement à Allah pour tous les ni'ma, zahira wa batina. Zahira, c'est la santé, ça va, alhamdulillah, la famille, les biens, tout ce qu'on a, siha, tout ça. Et batina, iman, la conviction en Allah, l'éloignement du haram. Alhamdulillah, les remerciements uniquement là. Donc si tout le monde essaie de te faire du bien, même si il t'apporte quelque chose. Et c'est là que nous voyons le discours réaliste de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. En commentaire, le muhadith explique, le prophète ne l'a pas dit que si le monde entier se réunissait pour t'apporter quelque chose, ils ne pourront rien pour toi. Ben non, parce que filwa, rien. Dans la réalité, nous voyons qu'il y a des gens qui ont été aidés. Ah oui, un tel l'a pistonné, un tel est venu en aide. Il était endetté, quelqu'un l'a aidé, il a prêté de l'argent, il n'avait pas de travail, quelqu'un l'a embauché, et ainsi de suite. Ben non, on ne peut pas dire qu'il ne peut rien faire, ils l'ont fait. Ça, c'est le discours cohérent. Oui, ils t'ont fait quelque chose. Oui, il a bien agi avec toi. Oui, ces personnes-là lui ont été d'une quelconque utilité. Mais l'aide qu'ils t'ont apportée là, ils ont été les intermédiaires pour qu'Allah t'accorde ce ni'ma. Donc, ton cœur est orienté vers Allah Azza wa Jal et tu es reconnaissant vers Allah. Ça ne veut pas dire pour autant que tu vas dire aux gens, la personne dit, bon, ben, je vais t'aider, 2000 euros, je te prête, tu es en difficulté. Tu dis, merci. Elle dit, mais donne, mais je ne te remercie pas. Parce que ça, c'est une ni'mat de la part d'Allah. Toi, tu es pour rien. Elle dit, attends, écoute, il m'avait 2000 euros, m'a avait 20 billets verts dans mon poche. Maintenant, mon poche est léger. Il m'a donné quand même. Ça fait 20 billets verts en moins. J'étais là. Pourquoi elle n'a pas dit Mohamed ou Ishaq? Non, là, ça aurait été incohérent aussi. Que la personne dise que ça vient d'Allah. Bas, toi, tu es rien. Sors de là. Tu es juste un makhlouk. Elle dit, attends. Et là, nous voyons la cohérence de notre dîn. Malam yashkurin nas. Celui qui ne remercie pas les gens, en fait, là, il n'a pas vraiment remercié. Vous voyez comment ce dîn-là, c'est un dîn wasati, il y a de juste milieu, un dîn cohérent. Ce n'est pas juste une histoire de spiritualité, et puis tu es dans les nuages, dans le monde des bisounours, que les gens ils n'existent pas, c'est entre moi et Allah, et le reste. La personne te fait ihsan, il t'a pris en charge quand tu étais petit, je donne des exemples. Hein. Il t'a nourri, il t'a hébergé, il t'a donné tout ça. Après, tu dis que tu n'as rien fait, ça c'est Allah qui m'a donné. Attends mon frère, la reconnaissance, c'est que tu dis à cette personne, Barakallahu fik, Jazakallahu khair. Et les formules qu'on utilise au quotidien, Jazak, Allah, Jazaka, c'est Jaza, c'est la récompense. Ka, c'est pour toi, prenez un fixe, possessif, Jazaka, qu'Allah te récompense, Khaira, de la meilleure des façons. Et le Khair, c'est dans les mains d'Allah. Ce qui est qualifié par, ce qui est qualifié de khair, de bien pour Allah, ça dépasse de loin tout ce que l'homme, le médecin, l'architecte, l'ingénieur, le politicien, ce que eux ils qualifient de khair, là, c'est ils qualifient de bien par rapport à leur conception des choses. Mais qu'Allah décrète que ça c'est un bien pour mon serviteur, Allah, 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 c'est un bien pour toi, fi dunya wal akhirah, c'est un bien pour toi certainement, pour ton akhirah, pour ton éternité. Dans les formules du quotidien, subhanallah, ça c'est des formules magiques ça. Ça dépasse Harry Potter, ça dépasse toutes les stupidités. Le Jazakallahu khayra, c'est une doua magnifique ça. Le Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, tu as donné un cadeau magnifique là. Tu lui adresses que la paix d'Allah soit sur toi, que la clémence d'Allah soit sur toi. Y a-t-il pas un plus grand message d'amour? C'est beaucoup mieux que bonjour. C'est beaucoup mieux que hey, salut. C'est beaucoup mieux que en anglais hi, ou alors je sais pas n'importe quel hello. Salam, ikhwani fillah. Moi, je vois encore des parents qui viennent me voir, directeur, bonjour. Je dis, salam alaikum. C'est le parent, il vient, il me dit bonjour à ses enfants, ils vont me dire salam, le halal. On est adepte là, on est d'une société française et de suite, mais les trésors que nous avons, nous allons les brader pour des formules de politesse. Ah wallah! Donc, si vous saviez, si on prenait le temps de passer en revue tous nos acquis, tout ce que nous avons au quotidien, on comprendrait que notre religion, c'est un trésor, subhanallah. Alors, pourquoi on part-il loin comme ça? Donc, on revient, Ibn Abbas, qui entend que le prophète me dit que sache que oui, là, le wasatiyya, c'est que ces gens, ils t'ont accordé des bienfaits, mais en fait, c'est le bienfait qu'Allah a décrété, que ça, c'est pour toi, c'est pour mon serviteur, pas wasila, pas asbab. Par l'intermédiaire de ces gens. À ces gens, tu vas dire qu'Allah te récompense et tu vas agir correctement, tu vas lui faire ihsan. Et là, on ouvrirait une autre porte. Quand quelqu'un agit bien envers toi, tu fais doigt pour lui, tu as bon comportement et tu essaies d'agir à lui rendre ce bienfait en agissant de la même façon. Et lui, il va voir ça, il va agir de la même façon avec toi et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'il y aura une relation d'amour entre les gens de façon perpétuelle. Ça, c'est la beauté de notre dîn. Et envers notre Seigneur, la reconnaissance envers Allah, l'utilisation du bienfait dans le droit chemin de l'autre. Et le prophète alayhi salatu wa salam ensuite dit à Ibn Abbas, l'autre situation réelle, je retrouve, oui, non, je ne retrouve pas, mais on ne le connaît pas encore, wa'alam, je ne le vois pas, et si l'humanité, لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء إن قد كتبه الله عليك. Et si maintenant ces gens-là ils se réunissent pour te causer du tort, les méchants, les pirates, les sorciers, les je sais pas, il y a qui encore comme personne méchante, les méchants d'une manière générale, et puis à vous de voir qui c'est qui est très méchant. Et si ces gens-là ils essaient de te faire du mal, du tort, le prophète n'a pas dit qu'ils ne te feront rien, ne t'inquiète pas. Non, il y a des fois où une personne dit que voilà, on lui a jeté un sort, il est atteint. Et des fois, quelqu'un dit voilà, il a voulu me frapper, il m'a frappé, je saigne. Il a voulu casser mon couple est cassé. Il a voulu me faire tel tort et ainsi de suite. Il a brisé ma vie et ainsi de suite. Mais sache que ce qu'ils t'ont fait là, ben, on va dire que ça aussi, c'est quelque chose qui t'a été prédestiné. Maintenant, à toi de savoir comment agir en conséquence. Mais sache que ces gens-là, ils n'ont aucun pouvoir de faire du bien, que les makhlouqat ne peuvent pas faire du bien ni faire du mal sans qu'ils aient l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Après là, là on ouvrirait une autre porte qui est très complexe, qu'on a plus ou moins déjà abordée dans la question du destin. Pourquoi est-ce qu'Allah nous prédestine quelque chose de, entre guillemets, mauvais? On a vu que c'est la notion d'épreuve ou la notion de tahara. Dahara dans le sens de arabe, hein, bien sûr, le sens de purification par rapport à des péchés, pour qu'Allah veut du bien, pour que nous revenons, que nous nous réveillons par le biais de ces épreuves, et ainsi de suite. Donc c'est une porte qu'on n'a pas besoin de rouvrir, on l'avait déjà expliqué par la suite. Mais ce qui est important, c'est qu'en éduquant cet enfant de cette façon, l'enfant, il ne va pas fonder ses espoirs sur les hommes. De même que ses craintes ne seront pas orientées vers les makhlouqat. Il aura espoir en Allah bas uniquement. Il aura la crainte d'Allah faqat uniquement. Et ça va concrétiser ce que le prophète alayhi salatu wassalam lui a bien expliqué avant. Protège la religion d'Allah, Allah te garde sa protection. Donc amal, son espoir est en Allah faqat uniquement. Et quand tu as besoin d'aide, demande à Allah. Donc il sait que l'aide vient d'Allah, Allah seul peut protéger. Et là, à travers cette phrase, il a la concrétisation de cet enseignement. Et en conclusion de cette partie, 33 minutes, on s'arrêtera à 35. Le muhadith dit que ça, c'est pas quelque chose de facile. Il dit clairement, il dit que وَالْإِمَانُ بِهَذَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ الْإِنسَانُ مُتَعَلِّقًا بِرَبِّهِ. C'est un peu long. Il dit que pour arriver à cette réalité de iman, il faut vraiment un travail spirituel, il faut vraiment un travail de fond pour que le cœur de l'homme, il faut que le cœur de l'homme, du mu'min, soit vraiment attaché à Allah Azza wa Jal et qu'il ait tamam al-tawakkul, qu'il ait une confiance totale en Allah Azza wa Jal et qu'il ait la conviction que personne ne peut l'atteindre sans l'autorisation d'Allah. De cette façon, vraiment, on va développer la réalité de cette parole. Donc il y a un travail à faire. On avait expliqué en introduction au début que pour que cela rentre dans notre cœur, il y a cette conviction bien sûr, mais il y a également les a'mal. Ce sont les actions qui vont nous permettre de nous rapprocher d'Allah et les actions accomplies correctement nous permettront d'augmenter notre iman et donc de rester éloignés des péchés et nous obtiendrons l'aide d'Allah, la lumière va entrer dans nos cœurs, notre iman va augmenter. Donc on a expliqué ici ou dans d'autres programmes qu'il y a un engrenage et tout va démarrer de la bonne intention et de l'effort à travers l'accomplissement de la bonne action. D'où le premier terme, ihfadillah, c'est-à-dire fais de bonnes œuvres, éloigne-toi des péchés, apprends ta religion et propage. Tout va démarrer de l'effort qu'on va faire. En commentaire également, en conclusion de cette partie, le Mouhadith dit que l'enfant, de cette façon, n'aura peur de personne. En général, les enfants, ils ont peur de tout. Et un enfant qui grandit avec la peur, c'est un enfant qui va douter de ses capacités. Et nous allons voir, peut-être pas aujourd'hui, qu'à travers ce hadith également, ça c'est magnifique, c'est dans la conclusion, quand le prophète alayhi salatu wassalam dit que tout ce qui t'est prédestiné, tout ce qui t'est écrit, tout ce qui t'arrive, pardon, ça a été prédestiné, l'encre a séché, Allah a déjà pris ses décisions, sache qu'avec les difficultés, ben c'est là que l'aide d'Allah va arriver, et quand Allah t'éprouve, c'est pour t'envoyer des facilités par la suite, ça c'est le renforcement imaniya bien sûr, mais également le renforcement psychologique. Que l'enfant devient optimiste, que l'enfant ne grandit pas, il ne devient pas quelqu'un de défaitiste ou qu'il ne devient pas pessimiste, qu'il n'ait pas de doute sur lui-même, qu'il ait confiance en Allah, qu'il ne se remette pas en question, ah j'ai mal agi, peut-être que j'aurais dû faire ça. Ne t'inquiète pas, c'est muqaddar. Tu as fait ça, c'était écrit dans le destin, maintenant trace le chemin, avance et ne répète pas les mêmes erreurs, oriente-toi vers Allah. Dans la dernière partie, nous allons voir que le prophète alayhi salat wa salam va prononcer des paroles qui vont faire de Ibn Abbas radiallahu anhuma un jeune enfant, un jeune homme très fort dans sa tête. Et on avait expliqué dans d'autres programmes que quand on est fort dans sa foi, automatiquement on est fort dans notre... psychologiquement on devient fort. Pourquoi? Parce que nous sommes sûrs de nos choix. Parce que nous avons une ligne de conduite. Nous avons une moralité. Et quand quelqu'un a une moralité, une ligne de conduite, et qu'il sait qu'intérieurement il n'a rien à se reprocher, qu'il fait de son mieux pour être dans le droit chemin, ben, cette personne... il se sent fort, il se sent conforté dans tout ce qu'il fait. Et donc psychologiquement aussi, ça se ressent que c'est quelqu'un de stable. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la stabilité psychologique. Même les gens, parfois même des psychiatres, des psychologues, ils ne sont pas très stables eux-mêmes. Mais c'est le iman qui apporte la stabilité psychologique, parce que la stabilité spirituelle apporte la stabilité donc psychologique. Nous allons voir cette dernière partie, Inch'Allah. La semaine prochaine, dans la suite du hadith de Ibn Abbas, radiallahu anhu, qu'Allah Azza wa Jal nous donne à tous la possibilité de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, et qu'Allah Rabbul Izzah donne la possibilité de nous rapprocher de lui, que notre iman augmente jour après jour, et qu'Allah nous permette de nous éloigner de nos péchés, et que ces joies de Rajab qui sont en train de défiler, on est le combien là? Non. On parle sérieusement là. On est le 14. Je pensais qu'on était le 5 ou le 6. C'est moi qui dois régler. Rajab. On est le combien? Ajib, moitié Rajab est parti. Allah musta'an. Imaginez même pas. Moitié Rajab est terminé. Est-ce qu'on a déjà commencé nos préparations de Ramadan? Je ne parle pas les gâteaux. Hein? Je ne parle pas combien gâteaux madame finit commander, combien ça et ça a fait. Non, ça c'est... c'est-à-dire le waqt beda, je tends ça. Est-ce que spirituellement j'ai avancé? Est-ce que par rapport au mois dernier, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Je me pose à moi-même la question en premier, et chacun doit être capable de se poser la question, est-ce que j'ai fait un petit effort de tahajjud? Est-ce que j'ai fait un petit effort de le quota de dua? Est-ce que j'ai commencé à ouvrir mon Coran un peu plus souvent? Est-ce que j'ai dépassé le stade de Yassine le matin et Tabarakalladhi le soir? Est-ce que j'ai commencé des khatm al-Quran? Est-ce que j'ai commencé à faire un peu plus le dhikrullah? Est-ce que j'ai commencé à contrôler un peu le regard? Est-ce que j'ai commencé à contrôler un peu ce que j'écoute? Est-ce que j'ai commencé à faire un cheminement vers Allah Azza wa Jal en accomplissement de bonnes actions, en m'éloignant des péchés? Si ce n'est pas le cas, attention, 15 Rajab déjà passés. Et encore une fois, je le dis, on le dit dans tous les programmes, Rajab, le point culminant de Rajab, ce n'est pas le 27e. Le 27e, ça ne représente, il y en a qui ne seront pas contents, mais ça ne représente rien. Le 27e, le Mi'raj s'est passé une fois dans l'histoire de la vie du Prophète sallam. Bas, l'année d'ensuite, les Sahaba ne parlaient même plus du Mi'raj. L'année d'après, à Madina, il n'y avait rien. C'est-à-dire que c'est pas ce que... Le piège, c'est quoi? C'est quand Shaitan, il essaie de nous conforter, il nous donne le sentiment du devoir accompli. T'inquiète pas, Rajab, tu viens à la mosquée le 27e, tu écoutes, tu, mashallah, tu restes à la mosquée, tu dis, c'est bon, Rajab, mission accomplie. Sha'ban, casse pas la tête. le 15 Shabbat, tu viens à la mosquée, là, en guillemets, grande nuit, tu écoutes le programme, la mission est accomplie, tu as donné le droit au Shabbat et le droit au Rajab. A'udhubillah. Le Rajab, son droit, c'est Yawmiyan, c'est le matin, c'est le soir, c'est chaque instant, de demander à Allah la baraka dans ces moments-là pour qu'on puisse nous rapprocher d'Allah et qu'on puisse se préparer pour le Ramadan. Qu'Allah nous accorde ses qualités, en même moment promis à nous tous, et qu'Allah nous permet de devenir meilleurs durant ce mois et encore meilleurs par la suite durant le mois de Sha'ban, pour que pareil, comme le Sahaba Iman est costaud, quand cela est arrivé, Allahu Akbar, relation avec Allah, connexion avec un Sahaba qui atteint d'une flèche après une bataille. Il dit, une seule solution, il faut te saouler. Il faut boire de l'alcool pour que tu arrives dans un état, un genre de coma, d'accord? Tu es inconscient et on enlève cette flèche. Sahaba dit, abadan, jamais de la vie. Sahaba dit, da'ni, je fais deux raka'at de salat. Quand on écoute ça, on dit, arrête, pas vrai ça. Mais malheureusement pour nous, c'est authentique. Je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou quoi. C'est vrai. Sahaba, il a une flèche de la cuisse. Il dit, je fais deux raka'at de salat. Pendant cette salat, vous m'enlèverez cette flèche. Et il fait sa salat, il l'enlève, il ne comprend rien. Qu'est-ce que c'est? Et le sahaba, il fait la salat, je ne sais pas, un bâtiment s'est écroulé. Les gens, ils sont partis à tous les sens. Et à la fin, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ta'alluq al-qalbi billah. Le cœur est orienté vers Allah. Un tel élévation spirituelle qu'il perd les cinq sens. Son cœur est orienté vers Allah Azza wa Jal. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde, ça. Ça, c'est pas les histoires de dormir debout, comme un tel monde était marche sur l'eau, qui était fait de marche sur l'eau, était fatigué, était quoi sur l'eau, et ainsi de suite. Ça, c'est des. Pour moi, ça n'apporte rien. Parce que regardons l'exemple des Sahaba. Ça, c'est plus parlant. Ça, c'est des exemples concrets. Le Prophète m'a dit que c'est comme des étoiles. C'est des exemples. Les Sahaba, ridwanullah, yali majma'in. Ce n'est pas pour rien si Allah nous a donné les meilleurs des hommes après les Anbiya. Ce sont les Sahaba pour que nous les prenions en exemple. Donc, pareil, quand le Ramadan arrive, si Rajab et Sha'ban, je me suis bien préparé spirituellement. Imaginez qu'Allah me donne ses qualités. J'ai fait tahajjud 30 Rajab ou 29. J'ai fait tahajjud 29 ou 30 Sha'ban. Quand je démarre Ramadan et que Shaitan en garde à vue, pas même pas en garde à vue, en prison pendant 30 jours, Shaitan écroué. Le nafs, il se ramasse, il s'écrase. Pourquoi il s'écrase? Quand il ne mange pas, il ne boit pas, ainsi de suite, que Shaitan n'est pas là, ben le nafs, il ne danse pas trop. Le nafs, il est affaibli. Shaitan, il n'est plus là. Et que le rahmat d'Allah descend abondamment, comme jamais il ne descend durant les autres périodes de l'année. Et que je me suis déjà préparé spirituellement. Mon premier tahajjud de Ramadan, ça va être quelque chose de, un truc de malade. Ça va être quelque chose d'énorme sur le plan spirituel, parce que le socle spirituel, je l'ai installé par le husnul niyya, la bonne intention, et par l'effort. Vous croyez qu'Allah ne va pas nous donner ce cadeau de profiter spirituellement, de goûter à la halawatul iman, à la douceur de la foi, d'où l'importance. Bien malheureux, bien inconscient, celui qui dit que voilà maman, et quand arrive Ramadan, là nous commence bien de la mosquée et tout. Bien inconscient, celui qui laisse défiler Rajab et Sha'ban comme les autres mois de l'année, à nous de faire l'effort, inshallah, qu'Allah nous accepte. Et dernier petit message, si vous voulez l'entendre, l'écouter, c'est plus, là c'est pas uniquement pour les parents d'élèves, c'est pour l'ensemble des moussallis, inshallah azza wa jal. Le jalsa de cette année, inshallah azza wa jal, encore plus beau que l'année dernière. L'année dernière c'était bien, mashallah, c'était un beau jalsa, les enfants étaient mis à l'honneur, ça s'était bien passé, alhamdulillah, on avait accueilli, bi'idhnillah, plus de 700 personnes, Allah a facilité, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Cette année, inshallah, le jalsa aura lieu le 31 mai pour le quartier de Saint-Clotilde, mais également de Latanié, de Moufia et de Saint-Denis. Donc c'est un jalsa qui va réunir les quatre madrasas de Saint-Denis. Et dès maintenant, on prépare, ça a commencé depuis pas mal de temps, on prépare les enfants, on les fait répéter. Il y en a qui vont lire le Coran, d'autres qui vont interpréter des chants religieux, et ainsi de suite. Faites dua qu'Allah Azza wa Jal facilite. C'est quelque chose d'énorme. Prévu d'accueillir plus de 3000 personnes et plus de 22 représentations. C'est quelque chose d'important. Et c'est important également que les enfants d'ici, ils voient qu'ils sont capables entièrement, qu'ils ne développent pas de complexe. Qu'ils voient que par rapport à d'autres endroits, mashallah, on est du même niveau. On va faire un travail commun ensemble. Psychologiquement, c'est très important également. Faites du'a qu'Allah facilite. Et nous sommes toujours demandeurs d'assistance. On avait fait passer le message avec quelques personnes. On a besoin de coups de main, on a besoin de jeunes, ou parfois même de moins jeunes. On aura besoin d'aide le jour J et la veille du jour J également. passez nous voir et voyez qu'est-ce que chacun peut apporter hein, pour cet événement qui sera vraiment marquant pour nos enfants. Qu'Allah facilite, qu'Allah tawfiq illa billah et qu'Allah nous accepte. On a un petit projet également, on va en parler aux responsables. On aimerait faire partager également au Moussalli l'enseignement de la madrasa. Mais ça, on va parler avec nos responsables, que les parents voient qu'est-ce que les enfants apprennent. Par le biais de la mosquée, qu'ils voient également qu'est-ce que, à la fin de l'année, qu'est-ce que mon enfant a appris durant cette année. Ça, c'est important. Ça va valoriser l'enseignement de la madrasa et on va se rendre compte que, mashallah, lorsque j'enfends mes enfants là-bas, il apprend des choses importantes. Beaucoup trop de parents, ils font istihana, hein, ils ne donnent pas l'importance à la madrasa. Lorsqu'arrive le mercredi que j'inscris mon fils à l'UNSS, il va faire football, il va faire basket, il ne vient pas à la madrasa. Et il y a beaucoup de parents qui pensent que venir à la madrasa, c'est juste lire le Coran. Moi, je suis très déçu. L'année dernière, il y a, mashallah, 17 élèves qui ont terminé. Et beaucoup de parents pensaient que le Coran a été lu, khalas, la mission est accomplie, et ils ont disparu. 70% des élèves ont disparu. Sur 17, 18, on s'est retrouvé à 4 ou 5. Khassar. C'est pour ça que là, on va préparer les parents d'une autre façon pour qu'ils comprennent que la madrasa, le but, ce n'est pas juste que ton enfant lise le Coran. Kam min qurra. Combien de qurra iront dans le jahannam? C'est cru de dire ça, je le sais. Mais le Prophète l'a annoncé que parmi les premières personnes des jugés de Qiyam, l'al-qari, celui qui lisait, ou le alim qui prêchait la religion, mais il le faisait par ostentation. Ce sera les premières personnes à entrer dans le jahannam. Ce qui veut dire que la maîtrise de la lecture, ce n'est pas l'objectif final. Les personnes qui ont assassiné, je vais être cru également, les assassins de Uthman ibn Affan, ils lisaient le Coran mieux que les sahabes. Les sahabes, lorsqu'ils sont venus à Médina, ce n'était pas des Ahlul Médina, c'est des gens qui étaient venus de différentes régions du monde musulman. Les sahabes disent que lorsqu'ils sont venus, on les a accueillis, et ils étaient nombreux, ils étaient plus nombreux que les gens de Médina. Ouais. Mais bon, ils avaient iman, donc ils ont accueilli bras ouverts. Et quand on les entendait lire le Coran, on s'est dit, comment est-ce que des gens qui lisent le Coran comme ça, ils ont pu faire quelque chose de si horrible, assassiner Amir al-Mu'minin de sang-froid, Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Ce qui veut dire que la maîtrise, même quelqu'un qui lit le Coran d'une voix magnifique, ce n'est pas garanti du Jannah. Abadan wallah. Et le meilleur accompagnement qu'on peut donner, les meilleures chances que je peux donner à mes enfants, c'est de faire en sorte qu'ils continuent, même quand il est en première, en terminale. Il y a des parents qui disent que oui, mais là, il va passer bac, donc il faut l'enlever de la madrasa. Ikhwan, il fait là, il va apprendre la philosophie, il va apprendre telle chose. Maintenant, si cet enfant, il fréquente, parce qu'il faut qu'il apprenne quand même, il faut qu'il ait des diplômes, mais qu'en même temps, mashallah, il apprend le tafsir. Les grands, les plus grands, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Tafsir al-Fatiha. Ce qu'on avait fait ici en 7 jours, mais eux, ils le font de façon un peu plus approfondie. Ils font Riyad al-Salihin, la même chose. Ils apprennent Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Donc, c'est des choses qui leur seront, mashallah, extrêmement profitables, qui vont leur donner, inshallah, les bases pour qu'ils arrivent à faire la part des choses entre le iman et la nécessité du dunya, sans que la nécessité du dunya prenne le dessus sur le iman. Qu'Allah nous accepte et nous protège nos enfants et nous donne à tous iman kamil. Wa tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.